RFI, 9h30 à Paris, 7h30 à Abidjan et Dakar. On débute ce journal au Soudan. Vincent Dublanche, où l'on dresse le bilan.
Un bilan de 2 ans de conflit, pire crise humanitaire au monde, avec des chiffres toujours plus élevés de personnes qui ont faim, de personnes qui fuient. Et sur le plan militaire, une situation quasi gelée. Les ministres tunisiens et français de l'intérieur se sont parlé pour évoquer le meurtre, probablement à caractère raciste, d'un Tunisien en France. C'était samedi. Nous serons à Bangui dans ce journal pour le bilan des 10 premières années de la Cour pénale spéciale. Bilan contrasté, mitigé. Et on va se balader également dans l'immense marché aux moutons du nord d'Abidjan, qui est plein à craquer en ce moment à l'approche de la Tabaski. Le journal des sports dans 10 minutes. Victor Missistrano nous fera entendre notamment le sélectionneur du Sénégal, alors que se profile deux matchs amicaux contre l'Irlande et l'Angleterre.
Plus de 4 millions de personnes ont fui le Soudan depuis le début de la guerre en avril 2023.
Il s'agit d'un jalon dévastateur dans la plus grave crise de déplacement de population au monde. C'est ce que dit le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. L'Égypte accueille le plus de réfugiés soudanais, 1 500 000 d'après les derniers chiffres que le HCR a publiés hier. Le Soudan du Sud accueille 1 100 000 réfugiés, le Tchad 850 000 et puis la Libye, l'Éthiopie, la Centrafrique hébergent à eux 370 000 réfugiés venus du Soudan. Sur le terrain militaire, la guerre continue et on fait le point ce matin avec Alexis Guilleux.
Plus de 2 ans de guerre et la ligne de front reste quasiment la même. Le pays est toujours coupé en deux. L'armée soudanaise, dont le commandement est toujours installé à Port-Soudan, contrôle l'est du pays ainsi que le sud-est, alors que les paramilitaires des forces de soutien rapide contrôlent tout l'ouest du pays, c'est-à-dire le Darfour et une partie du sud-ouest. Parmi les dernières avancées, l'armée soudanaise a réussi à reprendre il y a quelques mois le contrôle de l'état d'Al Jazeera, grenier à blé du pays, et surtout a repris en mars dernier le contrôle de la totalité de la capitale, Khartoum, cœur d'intenses combats depuis le début de la guerre et où aujourd'hui s'est répandue une épidémie de choléra. Depuis, les paramilitaires ont redirigé leur offensive sur l'ouest, sur la ville d'El Fasher, capitale du Darfour Nord, dernière grande ville de la région à être encore sous le contrôle de l'armée régulière. C'est désormais là que se concentre le conflit. Une guerre qui perdure, alimentée par le soutien matériel de puissances étrangères.
Alexis Guilleux.
Et parmi les points névralgiques du conflit en cours, Alexis le disait, El Fasher.
La capitale du Darfour Nord, la plus grande ville de l'immense région orientale du Soudan, est la seule que ne contrôlent pas encore les paramilitaires des FSR. Ils l'encerclent depuis des mois, ils resserrent leur étau et c'est dans ce contexte qu'un convoi humanitaire a été visé lundi, des véhicules incendiés. Le dernier bilan fait état de 5 morts. Ce convoi stationnait à 80 km d'El Fasher. Il attendait le feu vert des diverses autorités, des belligérants, pour entrer éventuellement dans cette ville. Les camions étaient clairement siglés, Programme alimentaire mondial ou UNICEF, le Fonds pour l'enfance des Nations Unies, dont la porte-parole Eva Hinz dénonce l'attaque.
C'était un convoi d'une quinzaine de camions qui tentait d'atteindre des enfants et des familles dans la ville d'El Fasher, où sévit la famine. Le convoi se trouvait dans la ville de Koma quand l'attaque a eu lieu. Les camions UNICEF transportaient des suppléments nutritionnels et des produits d'hygiène destinés aux populations vulnérables autour d'El Fasher. Comme pour tous les convois humanitaires, nous avions communiqué à l'avance notre route, les différentes parties étaient informées et savaient à tout moment où se trouvaient les camions. En ce moment, les besoins à El Fasher sont effrayants. Il est très difficile de faire entrer de l'aide dans cette ville et il y a des centaines de milliers d'enfants et de familles qui ont besoin d'aide. C'est pour cela que des convois comme celui-ci sont importants, afin de pouvoir acheminer l'aide et soutenir la population. Nous condamnons cette attaque. Les convois humanitaires, les acteurs humanitaires, les infrastructures civiles ne devraient jamais être ciblés.
La porte-parole de l'UNICEF interrogée par Alexandra Branjon, les deux belligérants qui se rejettent la responsabilité de cette attaque. En Côte d'Ivoire, au moins 5 détenus sont décédés. 29 personnes ont été blessées, dont 6 agents pénitentiaires. C'est le bilan donné par le parquet d'un affrontement entre forces de l'ordre et prisonniers dans la maison pénale de Boaké, dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire. C'était hier, d'après le procureur de la République de Boaké. Les gardiens effectuaient une fouille de routine dans les cellules quand ils ont été attaqués par des détenus armés de gourdins ou de machettes. La Côte d'Ivoire à la une de votre débat du jour dans Appel sur l'actualité, alors que le fichier électoral mis à jour est publié, que les oppositions demandent toujours sa révision. Qu'est-ce que vous en pensez? On vous attend dans une grosse demi-heure, 8h10 temps universel et d'Abidjan.
Au Mali, un couvre-feu dans toute la région de Ségou.
Pour 30 jours reconductibles entre 21h et 6h du matin. Il n'y aura que les véhicules militaires, les ambulances qui pourront circuler dans la région de Ségou, dans le centre du Mali. C'est consécutif à ces attaques qui se sont multipliées ces derniers temps dans le pays. Le couvre-feu, par ailleurs, qui avait été allégé ces derniers temps à Tombouctou et qui finalement est ramené aux mêmes horaires, 21h, 6h. Suite aux attaques du Jnim lundi sur la ville, vous en lisez les détails sur notre appli RFI. Partons en Centrafrique maintenant. Je vous le disais en titre, la Cour pénale spéciale célèbre ses 10 ans d'existence. Elle a été donc initiée le 3 juin 2015. Les premières enquêtes en réalité ont été lancées quelques années plus tard, 2018-2019. C'est un tribunal hybride avec des magistrats nationaux et internationaux censés juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité commis en Centrafrique depuis 2003. Les autorités centrafricaines, certaines victimes saluent de vraies avancées, mais tout le monde n'est pas de cet avis. Bilan d'étape avec Rolf Steph Domialeu.
Considérée comme un symbole d'espoir en Centrafrique, la création de la Cour pénale spéciale répondait en 2015 à un appel en faveur de la lutte contre l'impunité dans le pays. 10 ans après, André-Michel Luanga, son président, présente les grandes réalisations de la CPS.
Nous avons déjà organisé 3 procès, dont le tout premier est arrivé à terme définitivement, où il y a eu même déjà des réparations. Les 2 autres, à savoir Ndélé 1 et Ndélé 2, sont presque bouclés.
Si 3 personnes ont été condamnées définitivement et 7 en première instance, des victimes remettent en cause l'efficacité de la Cour. Étienne Oumba est fondateur de l'association des victimes unies de Centrafrique AVUC.
Depuis 10 ans, les dossiers ne bougent pas. Cette juridiction ne juge que les petits soldats, mais les gros poissons sont en liberté. Ce que nous constatons, c'est que les activités de la CPS sont influencées par les autorités centrafricaines.
Des critiques que balaie André-Michel Luanga.
Depuis que je suis là, je n'ai jamais reçu des instructions ou du moins c'est des pressions quelque part. Aucun juge ne s'est plaint de ce qu'il ne pouvait pas exercer son ministère parce que la pression ou qu'il n'était pas indépendant dans tout ce qu'il faisait comme activité ici.
Après le retrait des États-Unis, principaux contributeurs à hauteur $1 million chaque année, la CPS rencontre aujourd'hui des difficultés financières qui réduisent sa capacité d'action. Rolf Steph Domialeu, Bondi, RFI.
Des difficultés financières au Sénégal, dans le secteur de la presse, notamment depuis le gel des contrats publicitaires en mai dernier. La coordination des associations de presse interpelle les autorités. Ibrahima Alissa Faye préside l'association des éditeurs de la presse en ligne. Il signe une lettre ouverte qu'il vient d'envoyer au président Bassirou Diomaye Faye. On écoute Ibrahima Alissa Faye.
Il faut tirer la sonnette d'alarme, mais surtout rappeler aux autorités qu'il faut quand même des mesures correctives par rapport à celles qui ont été prises dès le départ, à savoir le gel des contrats publicitaires, le gel de tous les paiements y afférents. Et donc, nous espérons que les autorités vont comprendre cela. Et déjà, il y a des concertations qui sont prévues la semaine après la Tabaski. Et j'espère qu'il y aura des discussions franches où la presse va mettre sur la table ses préoccupations, ses besoins, les perspectives, et l'État va tenter d'y apporter des solutions. Parce qu'il faut reconnaître que nous avions travaillé sur les assises nationales de la presse et les conclusions avaient été déposées depuis le 6 novembre 2024. Et jusque-là, il n'y a eu aucune discussion sur les conclusions de ces assises-là, mais également aussi, il n'y a eu aucune tentative de concertation ou de dialogue entre les acteurs et l'État du Sénégal.
Le président de l'association des éditeurs de la presse en ligne au Sénégal, interrogé par Léa Lisa Vesteroff.
RFI 9h39 à Paris, une heure de moins à Tunis après le meurtre samedi d'Hicham Mirawi dans le sud de la France. Peu de réactions en Tunisie.
L'homme de 45 ans tunisien a été tué dans un crime qui paraît avoir un motif raciste. Le parquet national antiterroriste s'est saisi. Sa sœur réclame justice. À Tunis, les réactions sont pour l'instant restées sur le plan officiel. Le ministre de l'Intérieur tunisien, Khaled Ennouri, s'est entretenu avec son homologue français lundi, Bruno Retailleau. Il a dénoncé un crime odieux. Il demande à Paris de protéger ses concitoyens. Lilia Blaise.
L'ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguen, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt dans un communiqué où elle a dénoncé un acte raciste qui nous frappe au plus profond de notre humanité, selon ses mots. En Tunisie, où pratiquement chaque famille a un proche qui travaille en France ou à l'étranger, le crime raciste contre Hicham Mirawi a provoqué l'indignation. Si certains médias sont partis à Kairouan, ville natale de Hicham Mirawi, les débats radio et télévisés ont surtout tourné autour du racisme en France et du climat de haine envers les étrangers et les musulmans qui auraient encouragé cette attaque, selon des chroniqueurs. Manoubia Mirawi, la mère du défunt, a livré un témoignage à la radio tunisienne Mosaïque FM, où elle confie ne pas avoir vu son fils depuis 15 ans, mais entretenir des liens très forts à distance. Elle était au téléphone avec lui lors de l'attaque. « Il m'a toujours épaulée malgré la distance, c'est lui qui prenait soin de moi à sa façon », a-t-elle déclaré. La famille attend de pouvoir récupérer le corps afin de préparer des funérailles en Tunisie. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Vincent, les préparatifs de la Tabaski battent leur plein en Côte d'Ivoire.
Oui, ce sera vendredi à Abidjan. On se presse pour acheter le mouton. C'est peut-être votre cas. Vous y allez peut-être ce matin au parc Abeta d'Anyama dans le nord d'Abidjan. 300 hectares parsemés de vendeurs et de leurs troupeaux venus de toute l'Afrique de l'Ouest. Et sur place, Benoît Almeras.
Mohamed Kandé est imam dans une mosquée d'Ebimpe à 2 km du parc d'Anyama. Objectif de sa journée, trouver un beau sacrifice.
Je cherche un mouton qui est bien présentable parce que le mouton de l'imam, le jour de la fête, on expose le mouton de l'imam. C'est ce qu'on va immoler.
Ça doit être un très beau mouton. C'est ça.
Très beau mouton, bien bâti, bien vraiment en forme.
Il y a l'embarras du choix. Des dizaines de troupeaux sont parqués dans les enclos boueux et les négociations entre les bergers et les clients ont de quoi rendre chèvre.
Je vois 160 là. Si moi, j'ai ça à 160 là. Même 140.
Pour un mouton, il faut compter autour de 150 000 francs CFA, 230 euros. Les vendeurs ont le temps. Certains sont venus du Nigeria à 2000 km, une semaine de voyage en déchargeant des bêtes tout au long du chemin. L'occasion de pratiquer son anglais de vache espagnole.
Is it good business for you, like to come here?
It's good for me.
D'autres arrivent du Burkina, du Togo, du Bénin. Adama est malien. Ses fournisseurs ont fait fuiter des moutons du Niger alors que Niamey a interdit les exportations de bétail.
Les animaux à la frontière, les gars déchargent et puis trouvent la manière pour rentrer, traverser la frontière. Donc ils viennent charger au Bénin. On peut dire que les 70% viennent de Niger actuellement.
Plus de 140 000 moutons sont déjà arrivés à Abidjan pour la Tabaski. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Et il est 7h42 à Abidjan et vous êtes avec Andréane Mellard.
Merci Vincent Dublange.